Vous écoutez On lit pour vous.
Le prix de la diversité et de l'adversité. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 16 juin 2024 dans le magazine Fugue. Alex Frédéric Mignot n'en a que faire de la célébrité. Cette personne non-binaire aura toutefois fait couler beaucoup d'encre en novembre dernier, alors qu'elle a décidé d'effectuer une grève de la faim à Québec afin que le marqueur X puisse être inscrit sur sa carte de la RAMQ. Si l'on peut désormais demander le marqueur X sur les actes de naissance ou de mariage depuis 2022, l'inscription du X sur des documents d'autres organismes comme la RAMQ et la SAAQ aura pris plus de temps. En mars dernier, Québec a confirmé que le marqueur X pourra être inscrit auprès de ces organismes, seulement quelques mois après que le gouvernement a indiqué qu'il souhaitait attendre le rapport final du Comité des sages sur l'identité de genre, donc pas avant l'hiver 2025, avant de prendre une décision à ce sujet. En mars dernier, il avait toutefois été affirmé que certains problèmes persistaient, dont l'alphanumérisation des données des personnes demandant le marqueur X auprès de la RAMQ, le sexe biologique des patients-patientes étant considéré comme une donnée importante. Qu'est-ce qui t'a incité à faire une grève de la faim? Ce n'est peut-être pas génial comme histoire, parce que je n'ai pas vraiment de parcours admirable ou de réflexion deep à apporter. C'était vraiment juste une détresse, un appel à l'aide. J'étais à court de moyens et je sentais que j'avais fait tout ce qu'on m'avait dit que je pouvais faire. J'avais contacté toutes les personnes qu'on m'avait dit de contacter. J'avais usé toute ma patience. J'avais payé pour mes soins. Je n'avais plus d'argent pour continuer à payer. J'avais fait de mon mieux pour continuer à fonctionner. Puis il n'y avait rien qui débouchait. Je sentais que, dans le fond, il n'y avait que moi que ça affectait. Je sentais que personne ne me croyait quand je leur disais que c'était urgent, que ça avait besoin d'être implanté, que la loi c'était la loi, puis que moi aussi je méritais d'être protégé par la loi autant que les autres personnes. Une grève de la faim était donc le moyen le plus agressivement passif auquel j'ai pu penser pour justement forcer la main des personnes qui sont en position de changer les choses. Es-tu satisfait des changements récemment apportés par le gouvernement? Non, vraiment pas. Je suis très en colère parce qu'il n'y a aucune excuse qui a été présentée. J'estime qu'on nous manque énormément de respect en mettant sur la place publique la validité de nos droits dans un débat qui a déjà eu lieu en cour et qu'on a gagné en cour supérieure. Comment ça se fait qu'on se batte encore, alors que la loi a même été amendée et que la décision n'a pas été portée en appel? Il y a un lien de confiance énorme qui a été brisé. Et les organismes publics ne semblent pas du tout tenir à cœur le fait de nous assurer que nos informations vont être corrigées. Je le sais, on leur apprend que ça existe, qu'il y a des personnes qui ne sont pas des hommes et des femmes. On le sait que ça s'insère dans un système qui est vieux et qui est complètement socialement dépassé par ses attentes, par son infrastructure, puis qu'il faut apporter des corrections partout, et que c'est lourd et c'est lent. Mais l'affaire, c'est que ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui l'ai fait comme ça. Je n'ai jamais demandé ça. Ce n'est pas ma job. Je ne suis pas payé pour. Il n'y a pas de raison qu'on me regarde encore des heures en disant « Oui, mais je ne sais pas quoi faire. » Y a-t-il un message que tu aimerais transmettre aux personnes non-binaires? Ce serait un message d'amour. J'aimerais tendre les bras pour leur offrir un câlin à qui on veut. Parce que c'est aussi une lutte. Il y a des personnes qui sont plus chanceuses que d'autres. Je me considère quand même moyennement chanceux, juste parce que j'ai encore quelques personnes autour de moi. Mais je sais qu'il y a énormément de solitude, et je pense que parfois on sent tellement qu'on n'a pas de place nulle part qu'on se demande si on mérite de l'amour. Mais c'est tellement une erreur de penser ça. On est tellement des êtres aimables, on est tellement des êtres créatifs et des êtres colorés. Nos luttes sont valides, nos luttes sont utiles. Et qu'aimerais-tu dire aux personnes LGB+, aux personnes homosexuelles et bisexuelles qui nous lisent. Je leur conseillerais peut-être de continuer à regarder ce qui se passe pour les personnes non-binaires. Parce que si, nous, on a la liberté d'essayer toutes sortes de choses, pourquoi pas les personnes LGBT aussi? Si, justement, nous, on peut se redéfinir complètement dans la société, alors je pense que ça ouvre la voie pour que le reste des gens, qui peut-être sont cantonnés à certaines conventions sociales, dans un souci justement d'éviter la confrontation, de forger sa propre place sans trop de barrières, puissent aussi se redéfinir. J'espère que, quand les droits des personnes trans non-binaires vont être émancipés, ça va ouvrir de nouvelles portes encore plus grandes aux personnes LGBT qui nous ont précédés et qui ont surtout été les premières personnes sur le front jadis pour défendre nos droits, pour aimer qui elles aiment, pour être qui elles sont. On est vraiment ensemble là-dedans. On est une grande famille. C'était « Le prix de la diversité et de l'adversité », une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 16 juin 2024 dans le magazine Fugue.
Le tir allaitement, nouvelle tendance ou solution miracle? Un texte d'Alexia Boyer, paru le 18 juin 2024 dans Urbania. Tu allaites ou tu donnes le biberon? Se font souvent demander les jeunes mères comme si la nutrition infantile imposait de devoir choisir son camp, nourrir son enfant au sein ou avec de la formule. Il existe pourtant plusieurs alternatives qui permettent de contourner ce faux choix, parmi eux le tir-allaitement exclusif TAE. Marie-Anne Millejour et Roxane Bédard font partie de celles qui ont trouvé leur équilibre avec cette méthode. C'est quoi ça, le tir-allaitement? L'expression « tir-allaitement exclusif » désigne le fait de nourrir son bébé au biberon, mais uniquement avec son lait maternel. Souvent, on pense que les tire-laits servent seulement au cas où on ne peut pas donner le sein, mais c'est possible de nourrir exclusivement son enfant au biberon avec son propre lait, explique Roxane. Pour Marianne, le choix de se tourner vers le tire-allaitement s'est fait de pair avec son conjoint, qui souhaitait participer à l'alimentation de leur jumelle. C'était un choix de couple pour permettre à mon conjoint de créer une relation de proximité. De plus, ces bébés sont nés prématurément et n'avaient pas l'énergie de téter au sein, comme beaucoup d'enfants nés avant terme. Roxane, quant à elle, a commencé par nourrir son bébé au sein. Il avait toutefois besoin de boire de grandes quantités quelques jours après sa naissance pour éliminer des symptômes de jaunisse. Comme Roxane avait mal à la poitrine lors de la tétée, elle s'est tournée vers un tire-lait reçu en cadeau. À partir de ce moment, la jeune mère a pratiqué le tire-allaitement exclusif, TAE. « Si je suis capable de tirer mon lait sans douleur et qu'il peut boire, c'est un bon compromis. » Roxane a finalement tiré son lait pendant un an après la naissance de son premier enfant et elle a pu le nourrir 6 mois de plus grâce au lait qu'elle avait congelé. Forte de cette belle expérience, elle a décidé de recommencer avec son deuxième bébé, qu'elle tire à lait depuis maintenant 8 mois. Hashtag breastpump. Si vous rencontrez l'expression pour la première fois dans cet article, c'est normal. Il existe encore très peu de ressources en français sur cette pratique. Alors que le TAE est largement répandu aux États-Unis, où le congé de maternité est souvent très court, il l'est beaucoup moins au Canada et en Europe. De ce fait, le personnel médical n'est pas toujours très informé à ce sujet. Quand mon bébé avait 3 semaines, une pédiatre m'a dit que ça ne servait à rien de tirer mon lait, car ça ne fonctionnerait pas sur le long terme, se remémore Roxane. La méconnaissance du tire-allaitement signifie que les jeunes mères sont souvent livrées à elles-mêmes. Marianne a ainsi été forcée d'insister auprès du personnel de l'hôpital pour obtenir des réponses à ses questions. Roxane, qui a, quant à elle, accouché en plein temps des fêtes et en période de confinement, a dû se débrouiller seule. une communauté essentielle. C'est grâce à Internet que les deux femmes sont parvenues à trouver de l'information sur la pratique. Roxane est d'abord passée par Instagram, notamment en consultant des comptes en anglais. Aux États-Unis, beaucoup de consultantes en lactation sont spécialisées dans le tire-allaitement exclusif. Par la suite, elle et Marianne ont rejoint le groupe Facebook Tire-allaitement exclusif au Québec, TAE. Il compte à ce jour 8000 membres et, comme son nom l'indique, rassemble une communauté de personnes qui expriment, le terme correct pour dire « pomper », leur lait pour nourrir leur bébé. C'est vraiment un groupe unique, car ce sont des informations que peu de gens connaissent, explique Roxane, qui compte désormais parmi les modératrices. Les marraines d'allaitement sont de super ressources pour celles qui allaitent au sein, mais le tire-allaitement est un monde à part. Les jeunes mères échangent ainsi des conseils et partagent les mêmes peines, les mêmes deuils et les mêmes frustrations. Marianne y a notamment trouvé un comparatif des tire-laits qui lui a été fort utile. Toute mention de l'allaitement au sein est d'ailleurs proscrite pour ne pas risquer de réveiller des traumatismes. On le fait pour protéger les autres, car ça peut être un gros deuil d'arrêter de nourrir le bébé au sein. Certaines le vivent comme un échec, raconte Roxane. Marianne est de cet avis et parle du deuil de l'allaitement qu'elle a dû faire. J'aurais aimé allaiter mes filles en tandem, les deux en même temps. Le tire-allaitement constitue rarement un premier choix. Souvent, il s'impose comme substitut à l'allaitement au sein. Mais quel que soit le mode d'alimentation choisi, Marianne rappelle que le plus important, c'est un bébé bien nourri et une maman heureuse. On entend beaucoup que l'allaitement est primordial, mais si la maman n'est pas heureuse, ça ne sert à rien. C'était Le tire-allaitement, nouvelle tendance ou solution miracle? Un texte d'Alexia Boyer, paru le 18 juin 2024 dans Urbania.
Joséphine Bacon, Éloigner le désespoir, un texte d'Alexandre Sirois, paru le 21 juillet 2024, dans la presse. Tout l'été, nos chroniqueurs partent à la rencontre de personnalités qui les inspirent. Pour échanger sur ce qui, dans la vie, nous motive, nous donne des ailes, nous pousse à créer ou à agir. Alexandre Sirois s'est promené au Parc La Fontaine avec la sagesse incarnée, la poétesse inoue Joséphine Bacon. Cette entrevue avec Joséphine Bacon est passée à un cheveu de ne pas avoir lieu. Je vous raconte. À 2 heures de notre rendez-vous, son agente me téléphone. La poétesse inoue s'est réveillée avec une extinction de voix. Après avoir proposé le report du rendez-vous, j'apprends, en fin de compte, qu'elle accepte malgré tout de se déplacer comme prévu au Parc La Fontaine, où j'allais la rencontrer. Joséphine Bacon arrive en boitant, avec la canne qu'elle ne quitte plus, même si ses genoux trop usés ont été remplacés il y a quelques années. Je me rends compte très vite que sa voix, habituellement rauque, l'est encore plus en ce chaud matin de juillet. Mais son visage est toujours aussi lumineux, ses yeux bleus sont toujours aussi pétillants, et au fil de notre conversation, comme dans ses recueils de poésie, la magie opère. Comment ne pas être charmé par cette femme inspirante? Cette toute petite poétesse qui dégage, avant même d'avoir prononcé un seul mot, une sagesse teintée d'optimisme. À moins que ce ne soit l'inverse. On m'avait prévenu que je serais envoûtée. J'avais demandé la veille par courriel à la jeune poétesse inoue Marie-André Gilles de me confier ce que représentait pour elle Joséphine Bacon. Elle incarne le charisme naturel. On l'aime instantanément, a-t-elle notamment répondu. Malgré les tentatives d'assimilation et d'acculturation, la force de la langue et de la culture innue ont trouvé un passage précieux en elle, a-t-elle ajouté, précisant que Joséphine Bacon incarne l'espoir. Qu'en pense la principale intéressée? J'ai un poème qui dit « J'ignore si demain me gardera intact. Je dis que l'espoir de se laisser être éloigne le désespoir. Pour moi, garder espoir, c'est ça. J'ai de la misère avec le désespoir. J'ai de la misère à être désespéré parce que je finis tout le temps par trouver un petit sentier qui va m'amener, qui va finir par me faire sourire », précise la poétesse de 77 ans. Je suis journaliste, alors vous me pardonnerez de m'acharner un peu. Je lui parle des guerres en Ukraine et à Gaza. J'évoque ensuite les changements climatiques. Je lui demande si elle a quelque chose à dire à ceux qui, dans ce contexte, ont du mal à garder espoir. Je me dis que tout finit par finir. La guerre va finir. On ne peut pas être éternellement en guerre, dit-elle. Elle aborde aussi la question du sort de la planète. Je sais que les éléments sont fâchés, dit-elle. Il y a des inondations, l'eau. Il y a des incendies de forêt, le feu. L'air, c'est les tornades et les ouragans. Je pense que la Terre nous donne des avertissements. Il faut savoir l'écouter. Et il faut savoir surtout l'entendre. Et agir en conséquence? Déjà, entendre, c'est beaucoup. Mais il faut savoir entendre et aussi savoir voir. Parce que si on ne fait que regarder, on ne verra rien. Je poursuis sur cette lancée. Je lui demande si elle a un message à livrer aux jeunes d'aujourd'hui. Et là, elle se rebiffe gentiment. Je ne sais pas pourquoi il faut toujours laisser un message. Je ne me sens pas comme un messager. Je me dis que quand les jeunes me questionnent sur ce qu'ils ont envie de savoir, c'est dans mes réponses que j'ai des messages. Et si elle pouvait utiliser une machine à remonter dans le temps pour discuter avec l'adolescente qu'elle était jadis et qui habitait dans un des tristement célèbres pensionnats pour autochtones, que lui dirait-elle? Je lui dirais « Tu as bien fait ». Bien fait de quoi? Bien fait d'avoir gardé le rire et le sourire. Quelque part, c'était mon mode de survie. Pour Joséphine Bacon, existence rime avec résilience. J'aurais pu être une adolescente triste, dit-elle. Mais je savais que rire et sourire me garderaient toujours dans l'espoir d'un meilleur. Un meilleur? Dans un meilleur, point. C'est vaste, le meilleur. Dans tout ce meilleur, il y a quelque chose. J'ai trouvé mon bonheur. Donc, déjà, quand vous étiez jeune, vous saviez que rire et sourire, c'était fondamental? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on ferait sans sourire? La poétesse prend une brève pause. Et bien sûr, à ce moment précis, un large sourire éclaire son visage. Il exprime autant le bonheur que la sérénité. Un sourire, comme beaucoup disent, ça coûte rien et ça fait du bien, dit Joséphine Bacon. On entend tout à coup près de nous le cri d'un canard. Il est d'accord avec moi, lance-t-elle, le regard rieur. Dans la foulée, je lui demande si elle a une recette pour vieillir heureuse. Je n'ai pas de recette, mais je m'accepte et j'accepte ce qui m'est offert. Parfois très beau, parfois moins beau, parfois triste. Mais au bout de chaque jour, je sais qu'il y a du beau. Vous écoutez Joséphine Bacon, Éloigner le désespoir, un texte d'Alexandre Sirois, paru le 21 juillet 2024 dans la presse. Vous avez bel et bien l'impression de vieillir heureuse. Je ne me trompe pas. Je me fous de vieillir. Je lui avoue que sa réponse me surprend et que tout le monde ne peut pas en dire autant. Elle éclate d'un rire franc et contagieux. Écoute, c'est quoi vieillir? C'est une journée après l'autre, finalement. On est tous des vieux parce qu'on rajoute toujours une journée à notre vie. Mais ce qui est extraordinaire de vivre, c'est quand tu as la chance de vivre le demain qui devient l'aujourd'hui. C'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Puis Joséphine Bacon me parle des aînés Innu avec qui elle s'est entretenue au cours des dernières décennies. Avant sa rencontre avec la poésie, son premier recueil « Bâton à message » Chishinwa Shitakana a été publié en 2009. Elle transcrivait et traduisait leurs propos, faisant équipe avec une poignée d'universitaires réputés. On a d'ailleurs dit que l'anthropologue Serge Bouchard la surnommait « la traductrice de l'âme Innu ». Tout me vient d'eux. Sans eux, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui à vous raconter ce que je suis, dit-elle au sujet de ses aînés. Mon cœur, mon âme, serait toujours plein d'espoir, mais je n'aurais pas toute cette sagesse. Elle s'interrompt, visiblement troublée, parce qu'elle a prononcé le mot « sagesse ».« Oh, j'exagère, là !» lance-t-elle. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais Joséphine Bacon est d'une grande et authentique humilité. Elle se reprend et parle plutôt d'une philosophie de vie. J'ai tout appris d'eux, même que j'ai juste à penser à eux et je suis avec eux. Qu'elle soit à Montréal, où elle habite depuis longtemps, ne fait aucune différence. Elle se dit aussi en mesure de regagner, par la seule force de la pensée, le territoire où vivent ses aînés. Le Nout-Shimit. La gente de Joséphine Bacon avait suggéré d'organiser notre entrevue dans un parc, et ce n'était pas par coquetterie. J'aime beaucoup les arbres. Mon père adoptif me disait toujours, quand on était dans le Nout-Shimit, que si on sait entendre, les arbres nous parlent. Quand je veux entendre le silence, je vais dans un parc, je me ferme les yeux et je retourne vraiment dans le territoire, explique la poétesse. C'est le territoire qui fait qui je suis, affirme Joséphine Bacon. La langue Innu est une autre composante fondamentale de son identité. Elle l'explique avec des mots que ne renierait sûrement pas Gilles Vigneault si on le questionnait sur la langue française. « C'est autant la langue de mon cœur que celle de mon âme. » Je dis par la suite à Joséphine Bacon que j'aimerais savoir ce que c'est, selon elle, qu'un poète. Elle ferme les yeux pour mieux se concentrer. Ma question, visiblement, lui donne du fil à retordre. Je ne sais pas c'est quoi un poète. Je ne sais pas. Je n'ai aucune définition pour expliquer qui est le poète. Je pose une question un peu différente. Comment vous décrivez-vous en tant que poète? Je lui demande si ça aide. Elle rigole. Non, pas plus. Puis elle se ravise. Tu sais, la poésie. Je sais qu'il y a des gens qui m'arrêtent pour me dire que je leur fais du bien. Être poète, c'est peut-être faire du bien, finalement. Je lui explique alors que je l'ai découverte en visionnant, il y a quelques années, le documentaire tourné à son sujet et intitulé « Je m'appelle humain », que j'ai eu l'impression que son sourire était comme un poème, tout comme sa présence à l'écran. Elle rit encore. Et je vous jure, en tous les cas, je ne crois pas me tromper, c'est un poème vivant que j'ai alors sous les yeux. On me dit poète, mais c'est les autres qui le disent, dit-elle ensuite. Moi, j'enseigne la langue Innu. Je sais que je suis ça. Je sais que je suis traductrice. Je sais ça. Mais poète, c'est... Je pense que c'est quelqu'un qui est amoureux de mots simples, mais qui touche l'âme ou le cœur de personnes qui les lisent. La voici donc, sa définition. Elle est spontanée et elle me semble très juste. Quelques minutes plus tard, après la fin de l'entrevue, la poétesse prend la pose devant un arbre lors de la séance photo. Un homme à vélo la reconnaît, il s'arrête et l'interpelle. « On vous aime tellement, je suis très content de vous voir », s'écrie-t-il. En retrait, j'observe la scène. Je repense à ce que disait Marie-André Gilles lorsqu'elle évoquait le charisme de la poétesse de 77 ans. Je me dis aussi que j'assiste en direct à une démonstration du pouvoir des mots de Joséphine Bacon. Visiblement, ils ont touché l'âme ou le cœur de cet homme. Et peut-être même les deux. Ce qui l'inspire, préserver l'Innu Aïmoun a toujours été fondamental pour Joséphine Bacon. La survie de l'ensemble des langues autochtones, en fait. Elle l'explique aisément. C'est comme pour les Québécois qui veulent préserver leur langue française. C'est la même histoire. C'est ton identité, dit-elle. Si tu parles ta langue, tu es sûr de qui tu es. Qui est Joséphine Bacon? Joséphine Bacon est née à Pessamit en 1947. Sa jeunesse sera marquée par son séjour dans un pensionnat pour autochtones de 5 à 19 ans. Quelques années après son arrivée à Montréal en 1968, elle collabore avec des universitaires pour traduire et transcrire des conversations avec les Innus. Elle se met aussi à enseigner l'Innu Aïmoun. Son premier recueil de poèmes, Bâton à message, Chisinwashi Takana, est publié en 2009. Elle en a publié trois autres en solo depuis. Nipishapui Nete Mouchouat, Un thé dans la toundra en 2013. Ouyesh, quelque part en 2018. Et Kao Minwat, une fois de plus, en 2023. C'était Joséphine Bacon, Éloigner le désespoir, un texte d'Alexandre Sirois, paru le 21 juillet 2024 dans la presse.